Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Nous poursuivons notre découverte de Viso, un magazine édité par l'un de nos partenaires, l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, l'IJBA. Ce journal, vous pouvez le retrouver sur le site de l'IJBA, dans les kiosques et librairies de la métropole bordelaise et dans les kiosques de Gironde et de Charente-Maritime, au prix de 4,50 euros. Il est réalisé par des étudiantes et des étudiants qui se sont spécialisés en presse écrite durant leur cursus et qui sont sur le point d'être diplômés de l'IJBA et donc de se lancer dans la vie active. Nous retrouvons dans cet épisode une voix que nous avions déjà entendue pour son article sur l'Occitan. Cette fois, nous allons parler anglais avec un papier qui s'appelle Dordogne Calling. C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Marie Lemaître.
Bonjour Jean.
Marie, avec vous, nous allons parler de la situation des Britanniques en Dordogne, une situation qui s'est singulièrement compliquée au fil des mois, en raison évidemment du Brexit. Un mot d'abord sur le contexte général. En 2020, l'INSEE avait publié une étude indiquant que 148 000 Britanniques vivaient en France. 43% d'entre eux sont installés en Nouvelle-Aquitaine. Et en Dordogne en particulier, où la préfecture estime qu'ils sont 8000, ils représentent donc environ 2% de la population du département. Mais tout d'abord, comment expliquer l'attirance des Britanniques pour la région et la Dordogne en particulier, Marie ?
Eh bien, en fait, ce qui leur plaît particulièrement dans le département, c'est ces petits villages à l'architecture typique, vraiment avec une identité très forte et très marquée. Et ils aiment aussi le côté nature de la Dordogne. Beaucoup d'entre eux, notamment l'une des personnes que j'ai rencontrées, Simon Fletcher, m'a dit que ça ressemblait beaucoup au Kent anglais. C'était très vert, vert émeraude, très naturel, un peu de pluie, mais surtout beaucoup de beau temps. Sillonner les petites routes, ils adorent. Et ce qui est encore mieux en Dordogne par rapport au Kent, c'est la gastronomie. Ils ont les fraises comme en Périgord, mais nous, on a le foie gras et la truffe et ils en raffolent. Ils sont aussi très adeptes du déplacement en camping-car. Vraiment, les Britanniques, partir sur les routes avec les camping-cars, ils adorent. Et en fait, ils m'ont souligné aussi l'importance dans le département et en Nouvelle-Aquitaine, en règle générale, aussi en Corrèze, le département voisin, du nombre d'infrastructures pour pouvoir partir en vacances en camping-car, les arrêts sur la route, les campings, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui leur plaît beaucoup et c'est pour ça qu'ils sont très nombreux dans le département et la région.
Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Alors le 31 janvier 2020, il y a eu un bouleversement dans l'histoire de la construction européenne. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, c'est donc ce qu'on appelle le Brexit. De façon générale, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles conséquences a eu ce Brexit pour les Britanniques résidant en France ?
Alors, ça a eu deux grosses conséquences, je pense, qu'on va retenir ici pour les Britanniques. C'est lié à la même chose, en fait, c'est qu'ils ne sont plus citoyens européens puisqu'ils ne font plus partie de l'Union européenne. Ça a eu deux conséquences pour eux. C'est que, d'abord, ils ne peuvent plus voter aux élections municipales des communes dans lesquelles ils habitent. Et ils ne peuvent plus non plus être élus. Et par exemple, ça, c'est quelque chose dans les villes où ils sont nombreux, où ça a vraiment créé des conséquences, un malaise, des problèmes. problème puisque par exemple à Aimé en Dordogne où il y a une forte population britannique, le maire actuel s'entourait toujours d'au moins un Anglais dans son équipe municipale pour représenter justement la population de sa commune au mieux. Et là, ben, il ne peut plus. Donc les dernières élections, il n'a pas pu avoir un élu britannique. Et voilà, c'est quelque chose qui, eux, ne pas pouvoir voter et ne pas pouvoir s'impliquer ni être élu, c'est quelque chose qui est très décevant. Et tout simplement, vu qu'ils ne sont plus citoyens européens, ils ne peuvent plus non plus voter pour les élections européennes. Et pour certains qui sont nés avec la construction européenne, comme le soulignait par exemple Linda, que j'ai rencontrée pour cet article, c'est quelque chose qui est très difficile. Ils ont l'impression qu'on leur retire une part de leur identité dans une certaine mesure.
Et la situation n'est pas la même pour les Britanniques installés avant la fin de l'année dernière et pour ceux arrivés après, c'est bien ça ?
En fait, ceux qui étaient installés avant le 31 décembre 2020 peuvent demander une carte de séjour. C'est-à-dire que cette carte, qui ressemble fortement à une carte d'identité, leur permet de rester en France. Et en fait, la carte est valable entre 5 et 10 ans suivant leur date d'arrivée en France. C'est-à-dire que ceux qui sont arrivés depuis 5 ans, c'est une carte qui est valable 5 ans. Et ceux qui sont arrivés depuis plus de 5 ans, c'est une carte qui est valable 10 ans. Donc pour ceux, donc, je répète, installés avant le 31 décembre 2020, c'est cette carte de séjour. Pour ceux qui sont arrivés après, la situation est différente, il leur faut un visa. Donc la carte de séjour, elle était délivrée assez simplement par la préfecture. Et en Dordogne, en raison du nombre d'Anglais qui sont installés dans le département, ils ont ouvert exprès, en octobre 2020, un bureau du Brexit pour accompagner les Anglais dans ces démarches. Donc au plus fort des demandes, ils avaient jusqu'à 80 rendez-vous par jour pour finaliser les dossiers, comme nous on irait faire en mairie pour faire notre carte d'identité, c'est-à-dire prendre les photos et les empreintes. Donc c'est vraiment la carte qui ressemble à notre future et nouvelle carte d'identité. Et ce bureau, évidemment, il est éphémère, puisque les demandes pouvaient être faites que jusqu'au 30 juin de cette année. Et donc, il est voué à terme à fermer, puisque tous les Britanniques auront fait leur demande. Par contre, quand les cartes vont expirer dans 5 à 10 ans, ils vont rouvrir ce même bureau.
Ces titres de séjour et ces visas, est-ce que ce sont des documents qui sont délivrés facilement ? Comment les obtient-on ?
Alors, pour la carte de séjour, c'est vraiment une démarche qui se fait auprès de la préfecture. Donc, c'est tout simplement un dossier comme un dossier d'identité qu'on remplirait. Tous les gens que j'ai rencontrés qui sont passés par ce bureau du Brexit ont souligné la facilité des démarches. Vraiment, ça a été pour eux très simple et relativement rapide. C'est une carte qu'ils sont venus récupérer en main propre à la préfecture. Après, pour le visa, c'est aussi une démarche par dossier, mais je connais moins, mais ça semble un peu différent puisque c'est un dossier qu'il faut faire auprès de l'ambassade ou du consulat. Donc, c'est même plus les mêmes interlocuteurs.
Ces démarches peuvent malgré tout être fastidieuses et donc certains Britanniques demandent la nationalité française, mais ce n'est pas si simple en raison notamment des tests de français qu'ils doivent passer.
Tout à fait. Les tests de français sont aussi demandés et c'est justement ce qui parfois les freine. C'est-à-dire qu'il y en a, vu ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont privés de leur nationalité européenne, demandent la nationalité française pour justement faciliter leur démarche, redevenir citoyen européen, s'impliquer dans leur vie locale. Donc il y en a qui vont même encore plus loin que cette carte de séjour et demandent la nationalité, mais justement ils sont finalement assez peu nombreux aussi par cette barrière de la langue qui peut parfois les freiner, parce que c'est ce que je discutais avec la dame que j'ai rencontrée, Linda. Elle m'expliquait que c'est totalement possible dans la région d'Aimé, qui est très anglaise, de vivre sans parler un mot de français. Mais elle-même le dira, c'est finalement malgré tout très handicapant. Donc voilà, il y en a qui ne parlent pas bien le français, et ça peut être une barrière, mais pour d'autres, voilà, ils combattent malgré tout ce rempart pour demander la nationalité.
Et justement, dans leur vie quotidienne, est-ce que cette situation est, sinon handicapante, en tout cas pesante pour ces Britanniques ?
Alors, handicapante, je ne dirais pas trop. Pesante, c'est sûr. Déjà, puisque comme l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne, il y a beaucoup de démarches supplémentaires, d'administratifs supplémentaires qui étaient facilités avant par l'Europe. Donc déjà, pour accueillir les membres de la famille, c'est beaucoup plus compliqué. Les transports se font moins facilement. Et en parlant de transport, les transports de marchandises sont aussi beaucoup plus compliqués. C'est-à-dire que eux veulent parfois être installés en France, mais tout en continuant à avoir un pied en Angleterre ou même faire venir des objets de famille ou quoi que ce soit. Et du coup, là, les démarches sont quand même plus compliquées. Pour ceux qui sont installés depuis longtemps, ils se sentent privés d'une partie de leurs droits. Vraiment, pour eux, ils ont l'impression qu'on leur retire une partie de leur identité. Et c'est ça qui est particulièrement pesant pour eux.
Tea on the lawn. It's not particularly warm. I was listening to Kate and her beautiful song. She's out there somewhere, swimming in the Atlantic on the summer solstice in the middle of the night. I think she's finally lost it, yeah. It's 13 degrees, I've exposed my knees. The wife's under a blanket, it doors on the sofa. She's switching those channels.
Est-ce que l'on peut déjà mesurer quel impact a eu le Brexit sur le nombre de Britanniques présents en Dordogne ?
Alors, sur le nombre, c'est assez difficile, puisqu'en fait, on ne peut pas faire d'études à proprement parler sur les Britanniques, puisqu'on ne peut pas faire de statistiques ethniques en France, contrairement aux États-Unis par exemple. Mais on sait qu'il y a eu une forte demande immobilière. Par exemple, pour cet article, j'ai contacté plusieurs justement agences immobilières pour savoir un petit peu, avoir des contacts avec des familles ou des choses comme ça. Et en fait, beaucoup m'ont dit qu'il y a eu une explosion de la demande au moment où justement on a appris qu'il fallait être installé avant le 31 décembre 2020. Il y a vraiment eu une ruée sur l'immobilier. Donc on peut supposer qu'ils ont été peut-être plus nombreux à s'installer plus définitivement.
L'impact économique et social des Britanniques sur la Dordogne est en tout cas indéniable. Hein. C'est quelque chose qui revient souvent dans la bouche, notamment des maires des communes rurales.
Tout à fait. Pour l'article, j'ai rencontré le maire donc d'Aimé, qui s'appelle Jérôme Bétail. Et pour lui, c'est vraiment cette population anglaise qui est installée dans la ville, c'est une source de richesse à la fois culturelle et d'implication. C'est-à-dire que les Anglais ont vraiment l'impression d'avoir un rôle à jouer dans leur ville et une implication. Et donc, au niveau des associations locales, ils vont très vite s'insérer. Donc, il m'expliquait par exemple qu'à Aimé, ils ont réhabilité le temple protestant. Et par exemple, Neil et Linda, donc, qui sont en couple et qui se sont installés juste à côté d'Aimé, à Sainte-Eulalie d'Aimé, eux, pour s'intégrer, pour connaître du monde, se sont tout de suite mis dans le comité des fêtes pour pouvoir rencontrer du monde et avoir un rôle à jouer dans la vie locale.
Marie, vous avez rencontré de nombreux ressortissants britanniques pour préparer votre papier. Vous avez dit un mot tout à l'heure de la façon dont leur identité pouvait être troublée par le contexte. Comment vivent-ils de manière plus générale cette situation ? Et je pense notamment à ceux qui sont installés ici depuis très longtemps et qui se sentent peut-être tout d'un coup un peu étrangers chez eux.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Dans le cas de Neil et Linda dont on a déjà parlé, ils ont vraiment été presque plus longtemps installés en France qu'en Angleterre. Donc ils ont un attachement à leur pays parce que ça reste leur racine, ils ont une partie de leur famille là-bas, mais ils sont aussi extrêmement attachés à la France et ne plus pouvoir, comme on le disait, voter ni aux élections européennes ni aux élections municipales, c'est vraiment très très difficile parce qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir un avis, d'avoir une implication dans leur vie locale qu'ils ne peuvent plus exprimer entre guillemets légalement ou par le vote. Donc c'est vraiment pour eux très frustrant et c'est ça dans le cas de Neil et Linda qui les a poussés à demander cette nationalité française parce qu'au final, aujourd'hui, ils se sentent plus français qu'anglais puisqu'ils ont été installés plus longtemps en Dordogne qu'à Londres ou d'où ils sont originaires.
Est-ce que vous avez l'impression que certains Britanniques nourrissent une forme de ressentiment à l'endroit de leurs compatriotes ou en tout cas de ceux qui ont voté en faveur du Brexit puisqu'on rappelle que cela a été décidé à l'issue d'un référendum?
Tout à fait. Je pense que ressentiment, je ne sais pas, mais des regrets, c'est sûr, dans le sens où beaucoup reviennent sur la façon dont s'est déroulée la campagne. Ils en parlent encore énormément. Ils disent que c'est une campagne qui a été basée sur beaucoup de fausses informations, qui a été mal faite, que ceux qui ont voté pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne n'ont pas été suffisamment informés et que ce vote n'a finalement pas assez été éclairé. C'est vraiment un regret à ce niveau-là. Pour eux, s'il y avait peut-être eu plus de pédagogie, plus d'informations et peut-être une information plus vraie, le vote aurait pu être différent.
Marie, une dernière question. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce papier et qu'aimeriez-vous qu'on en retienne ?
Alors, l'idée, ça a été, en fait, je travaille donc en Dordogne à Périgueux, et quand j'ai appris l'ouverture de ce bureau du Brexit, ça a tout de suite éveillé ma curiosité. Ça semblait un petit peu insolite, ce nom. Donc, déjà, j'ai voulu me pencher sur ce que c'était, et plus largement sur justement l'influence qu'a pu avoir le Brexit sur ces Anglais, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. En plus, justement, au fur et à mesure de mes découvertes en Périgord, j'ai découvert le village d'Aimé, qui est un peu une petite bastide britannique en Dordogne. Donc, je me suis vraiment dit, voilà, comment la vie de ces Anglais a changé. Donc j'ai voulu essayer de comprendre ça. Et ce que j'en retiens, c'est finalement un sujet qui aura été profondément humain. J'ai eu énormément de rencontres pour ce sujet, que ce soit avec des Anglais ou des Français qui sont au contact de ces Anglais, notamment le maire d'Aimé. Donc c'est vraiment un sujet très très humain et des gens très positifs. Donc c'est vraiment ça que j'en retiendrai.
Et oui, vous le disiez, vous êtes à Périgueux puisque vous travaillez en ce moment pour le quotidien départemental La Dordogne Libre. Merci beaucoup Marie Lemaître d'avoir répondu aux questions de Podcasting. Je rappelle le titre de votre article Dordogne Calling, il est à retrouver dans le magazine Viso, en vente sur le site de l'IJBA, mais aussi dans les kiosques et librairies de la métropole bordelaise et dans les kiosques de Gironde et de Charente-Maritime. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Lisa Feignet, Marion Ruot, programmation musicale Gabriel Taillet, iconographie Magali Marico, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.